Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite de cette aventure de Sherlock Holmes, écrite par Sir Arthur Conan Doyle, intitulée « Le dernier problème ». Holmes réitéra sa question. « Vous n'avez vraiment jamais entendu parler du professeur Moriarty ?»« Jamais ?»« Ah, voilà bien le côté génial, miraculeux de l'affaire. » s'écria-t-il. Cet homme règne sur Londres et personne n'a jamais entendu parler de lui. C'est ce qui le met au pinacle dans l'histoire du crime. Je vous dis, Watson, avec le plus grand sérieux, que si je pouvais vaincre cet homme, si je pouvais en débarrasser la société, ma carrière serait comblée et je me choisirais une profession moins mouvementée. De vous à moi, les affaires récentes où j'ai aidé la famille royale de Scandinavie et la République française m'ont procuré de quoi terminer mon existence le plus paisiblement du monde, de la manière que j'aime, en consacrant toute mon attention à des recherches chimiques. Mais je ne pourrai pas me reposer, Watson. Je ne pourrais pas demeurer tranquille sur mon fauteuil si je me disais qu'un homme comme le professeur Moriarty se promène dans les rues de Londres sans être inquiété. Mais qu'a-t-il donc fait ? Sa carrière a été extraordinaire. C'est un homme d'une bonne extraction, très cultivé, doté par la nature de dons phénoménaux en mathématiques. À 21 ans, il écrivait sur le binôme de Newton, un traité qui avait aussitôt un retentissement européen et qui lui valait la chaire de mathématiques dans l'une de nos universités secondaires. Selon toutes les apparences, son avenir s'annonçait extrêmement brillant. Mais son sang charriait des instincts diaboliques, criminels. Au lieu de les combattre, il leur a permis de s'épanouir et son extraordinaire puissance mentale s'est mise à leur service. Dans sa ville universitaire, des bruits fâcheux commencèrent à courir. Il dut démissionner de sa chaire et descendit à Londres, où il s'établit en qualité de professeur préparant à l'école militaire. Tout cela est connu. Et voici ce que j'ai découvert. Comme vous le savez, Watson, personne mieux que moi ne connaît le gratin du monde du crime à Londres. Depuis des années, j'avais l'impression que, derrière le malfaiteur, il existait une sorte de puissance occulte, une puissance avec une organisation profonde qui se dressait toujours contre la loi et qui étendait son bouclier pour protéger le coupable. À plusieurs reprises, dans des affaires très diverses, histoires de faux, cambriolages, meurtres, j'avais senti la présence de cette puissance. Et j'en avais découvert l'action dans un certain nombre de ces crimes jamais éclaircis, à propos desquels je n'étais pas consulté. Depuis des années, je m'efforçais de percer le voile qui l'entourait. Enfin, le jour est venu où je saisis le bon fil et je l'ai remonté en suivant 1000 détours jusqu'au professeur Moriarty, incontestable et célèbre autorité en mathématiques. Il est le Napoléon du crime, Watson. Il est l'organisateur de tous les forfaits, ou presque, qui restent impunis dans cette grande ville. C'est un génie, un philosophe, un penseur de l'abstrait. Il possède un cerveau de premier ordre. Il demeure immobile comme une araignée au centre de sa toile. Mais cette toile-là a un millier de ramifications et il perçoit les vibrations de chacun des fils. Il agit rarement par lui-même. Il se contente d'élaborer des plans. Mais ses agents sont innombrables et merveilleusement organisés. S'agit-il d'un assassinat à commettre, d'un document à soustraire, d'une maison à piller, d'un homme à faire disparaître? L'affaire est soumise au professeur, préparée par lui et exécutée par d'autres. L'agent peut être pris. Dans ce cas, on trouve de l'argent pour sa caution et pour sa défense. Mais le pouvoir central qui utilise cet argent n'est jamais pris, jamais soupçonné. Telle était l'organisation que j'avais découverte par déduction, Watson, et je consacrais toute mon énergie à la démasquer et à l'anéantir. Mais le professeur était entouré de protections si habilement réparties que, quoi que je fisse, il me parut impossible d'obtenir une preuve convaincante dans une enceinte de justice. Vous connaissez mes facultés, mon cher Watson, et pourtant, au bout de 3 mois, je dus convenir que j'avais enfin rencontré un adversaire qui était, sur le plan intellectuel, mon égal. L'horreur que m'inspiraient ses crimes se mêlait à l'admiration dont je saluais son habileté. Mais finalement, il fit un faux pas. Oh, un petit, tout petit faux pas. Tout de même, il ne pouvait pas se permettre le moindre faux pas pendant que je le serrais d'aussi près. J'ai pris ma chance. Partant de ce point, j'ai tissé mon filet. Aujourd'hui, il est presque refermé sur lui. Dans 3 jours, c'est-à-dire lundi prochain, le fruit sera mûr et le professeur, avec tous ses lieutenants, tombera entre les mains de la police. Alors s'ouvrira le plus grand procès criminel du siècle qui permettra de résoudre plus de 40 énigmes et ce sera la corde pour tous. Mais si nous bougeons prématurément, au dernier moment, ils nous glisseront entre les doigts. Si j'avais pu arriver jusque-là, sans que le professeur Moriarty en eût le soupçon, ça aurait été parfait. Mais il est bien trop malin. Il a vu tous mes préparatifs. Il a plusieurs fois tenté de s'échapper de ce réseau où je le réduisais, mais en chaque occasion, je l'ai rejeté dedans. Je vous assure, mon ami, que si un compte-rendu de ce duel silencieux pouvait être rédigé, il remporterait le premier prix des romans policiers. Jamais je ne me suis élevé aussi haut. Jamais je n'ai été pareillement talonné par un antagoniste. Il coupait gros. Je le surcoupais de justesse. Ce matin, les derniers préparatifs étaient accomplis. Il me fallait encore 3 jours pour terminer l'affaire. J'étais assis dans mon salon pour tout repasser dans ma tête. Et puis, la porte s'ouvrit. Le professeur Moriarty était devant moi. Mes nerfs sont assez solides, Watson. Mais je dois vous confesser que j'ai sursauté quand j'ai vu apparaître l'homme à qui je pensais avec tant d'intensité. Son physique m'était très familier. Il est extrêmement grand et mince. Son front s'élance dans une courbe blanche. Il a les yeux profondément enfoncés. Il est imberbe, pâle, ascétique de visage. Il y a du professeur dans son maintien. Ses épaules sont voûtées par l'étude. Sa figure se projette en avant et oscille d'un côté à l'autre. On dirait un serpent. Il me regarda entre ses paupières plissées avec une vive curiosité.
Votre développement frontal n'est pas aussi accentué que je me l'étais imaginé, dit-il enfin. Et c'est une dangereuse habitude de manipuler des armes à feu chargées dans la poche de sa robe de chambre.
De fait, à peine était-il entré que j'avais immédiatement deviné le danger personnel que je courais. Au fond, il n'avait rien de mieux à faire que de réduire ma langue au silence. Aussi, j'avais pris négligemment le revolver du tiroir et je l'avais glissé dans ma poche. Mais il m'avait vu. Étant donné sa remarque, je posai mon revolver armé sur la table. Il continua à sourire et à cligner de l'œil. Mais dans son regard, je discernais quelque chose qui me rendit très satisfait d'avoir eu cette arme dans ma poche.
« Évidemment, vous ne me connaissez pas, » dit-il.
« Au contraire, je pense qu'il est évident que je vous connais, je vous en prie, asseyez-vous. Je puis consacrer 5 minutes si vous avez quelque chose à me dire. »
« Tout ce que j'ai à dire, vous le savez déjà, » me répondit-il.
« Alors vous savez peut-être déjà ce que je vous répliquerai. »«
Vous y tenez ?»«
Absolument. » Il mit la main à la poche. Je m'emparai du revolver. Mais il sortit tout simplement un agenda sur lequel il avait griffonné quelques notes.
« Vous vous êtes mis en travers de mes plans le 4 janvier, me dit-il. Le 23, vous m'avez gêné. Vers la mi-février, vous m'avez sérieusement ennui. À la fin de mars, j'ai été complètement contrecarré dans mes plans. Et maintenant, vers la fin d'avril, je me trouve personnellement placé, à cause de votre persécution continuelle, dans une situation qui menace positivement ma liberté, situation intolérable. »
« Auriez-vous une suggestion à me faire ?» demandai-je.
« Laissez tomber, monsieur Holmes, » me dit-il en balançant sa tête. « Il faut que vous laissiez tomber, vous le savez. »
« Après lundi prochain. »
« Tut, fait-il, je suis tout à fait sûr qu'un homme de votre intelligence comprend qu'à cette affaire, il n'y a qu'une seule issue, retirez-vous, c'est nécessaire. » Vous avez manœuvré de telle façon qu'il ne vous reste plus que cette solution. Ça a été pour moi une grande joie intellectuelle de constater que vous saviez très bien manigancer cette affaire. Et je vous dis très sincèrement que je serais peiné d'avoir à prendre une mesure extrême. Vous souriez, monsieur, mais je vous affirme que ce sera une mesure définitive.
Le danger fait partie de mon métier.
« Il ne s'agit pas d'un danger, répondit-il, il s'agit d'une destruction inévitable. Vous faites obstacle non seulement à un individu, mais à une puissante organisation. Écartez-vous de notre chemin, monsieur Holmes,
sinon vous serez anéanti. » Je crains, dis-je en me levant, que le plaisir de cette conversation ne me fait oublier une affaire importante qui m'attend ailleurs. Il se leva également, me dévisagea en silence et secoua tristement la tête.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for
formidable. You are the one for me formidable. But how can you see me Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
Retour aux aventures de Sherlock Holmes. Le dernier problème est à sa rencontre avec le professeur Moriarty.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Le professeur se leva également, me dévisagea en silence et secoua tristement la tête.
« Bien, bien, fit-il, c'est dommage. Mais du moins j'ai fait ce que j'ai pu. Je connais tout votre jeu. Vous ne pouvez rien entreprendre avant lundi. »
Ça a été un duel entre vous et moi, monsieur Holmes. Vous espérez me jeter dans le box des accusés. Je vous dis, je ne m'assiérai jamais dans le box des accusés. Vous espérez me vaincre. Je vous dis, vous ne me vaincrez jamais. Si vous êtes assez fort pour me détruire, soyez assuré que je vous en réserve autant.
Vous m'avez fait beaucoup de compliments, monsieur Moriarty, lui répondis-je. Laissez-moi vous payer de retour. Si j'étais sûr que la première éventualité se produisit, j'accepterais joyeusement, dans l'intérêt public, la deuxième.
Je puis vous en promettre une, mais pas les deux.
Sur ce ricanement, il me tourna son dos voûté et quitta mon appartement. Telle fut, Watson, ma peu banale conversation avec le professeur Moriarty. J'avoue qu'elle produisit sur mon esprit un effet déplaisant. Sa manière de parler, lisse, précise, avait le ton de la sincérité qu'un matamore aurait été incapable d'y mettre. Bien sûr, vous objecterez, mais pourquoi ne pas prendre contre lui des précautions de police ? Parce que je suis fermement convaincu que le coup me viendra non de lui, mais de l'un de ses agents. J'en ai la meilleure des preuves. Vous avez déjà été attaqué ? Mon cher Watson, le professeur Moriarty n'est pas homme à laisser pousser l'herbe sous ses pieds. Je suis sorti vers midi pour une petite transaction dans Oxford Street. Je dépassai l'angle qui va de Bentinck Street au croisement de Welbeck Street. Un attelage de deux chevaux emballés fonça sur moi. Je sautai sur le trottoir et ne fus sauvé que par une fraction de seconde. La voiture que tiraient ces chevaux furieusement conduits tourna dans Marybone Lane et disparut en un éclair. Après quoi, je me cantonnai sur le trottoir, Watson, mais en descendant vers Veery Street, une brique tomba du toit de l'une des maisons et s'écrasa à mes pieds. J'appelai la police et fis examiner les lieux. Sur le toit, il y avait des briques et des ardoises empilées pour je ne sais quelle réfection, et on voulut me faire croire que le vent était le coupable.
Bien sûr, je savais que le vent n'y était pour rien. Mais comment prouver ? Après cela, je pris un fiacre et arrivai chez mon frère où je passai toute la journée. À présent, me voici chez vous. Mais en chemin, j'ai été attaqué par un passant armé d'un casse-tête. Je l'ai knock-outé et il est sous-clé au commissariat. Pourtant, je puis vous assurer en toute confiance qu'aucun rapport ne sera établi entre le matraqueur sur les dents de qui je me suis abîmé la main et le célèbre professeur de mathématiques qui résolvait sur un tableau noir au même moment des équations compliquées à 15 km de là. Vous ne vous étonnerez donc pas, Watson, si mon premier soin en rentrant chez vous a été de fermer les volets et si je vous ai demandé l'autorisation de quitter votre maison par une sortie moins voyante que votre porte de façade. J'avais souvent admiré le courage de mon ami, mais jamais je ne l'admirais davantage, tandis qu'il me résumait cette série d'incidents dont la combinaison aurait dû réussir un exploit horrible. « Voulez-vous passer la nuit ici ?» demandai-je. « Non, non, mon ami, vous pourriez trouver que je suis un invité dangereux. J'ai mes projets et tout se passera bien. » Les choses en sont maintenant arrivées à ce point que, sans mon concours, elles se dérouleront jusqu'à l'arrestation. Ma présence sera toutefois nécessaire pour obtenir la condamnation. Il est donc évident que je ne saurais rien faire de mieux que de partir pendant les quelques jours qui me séparent du moment où la police aura la liberté d'agir. C'est pourquoi vous me feriez un grand plaisir si vous vouliez m'accompagner sur le continent. La clientèle est calme, dis-je. J'ai un voisin complaisant, je serai ravi de vous suivre. De partir demain matin. Oui, si c'est nécessaire, oui. Oh oui, c'est nécessaire. Alors, mon cher Watson, voici vos instructions. Et je vous prie de vous y conformer à la lettre, car vous êtes à présent engagé avec moi dans un double contre le plus habile coquin et le plus puissant syndicat criminel de l'Europe. Alors écoutez-moi bien. Faites porter cette nuit vos bagages à Victoria par un commissionnaire de confiance. Demain matin, vous ferez un fiacre. Mais ne prenez ni le premier ni le second qui pourrait se présenter. Vous sauterez dans un troisième fiacre et vous vous ferez conduire au bout du Strand. Vous tendrez au cocher l'adresse que vous aurez écrite sur un morceau de papier en lui recommandant de ne pas le jeter. Préparez votre monnaie et au moment où votre fiacre s'arrêtera, foncez par les arcades et arrangez-vous pour arriver de l'autre côté à 9h15. Là, vous trouverez une petite charrette anglaise rangée contre le trottoir et conduite par un cocher revêtu d'une lourde cape noire fermée au cou par un galon rouge. Vous vous y glisserez et vous arriverez à Victoria juste à temps pour prendre l'express du continent. Où vous retrouverai-je ? À la gare. Le deuxième compartiment de première classe en tête du train nous sera réservé. Le compartiment est donc notre lieu de rendez-vous.
Oui.
Ce fut en vain que je demandai à Holmes de rester chez moi. Pour la nuit. Il pensait vraiment que sa présence sous mon toit risquait de m'attirer des ennuis. Et ce fut la raison pour laquelle il refusa mon offre. Il me précisa encore quelques projets pour la journée du lendemain, puis il se leva, sortit avec moi dans le jardin, escalada le mur qui longeait Mortimer Street, siffla aussitôt un fiacre, et je l'entendis s'éloigner. Le lendemain matin, j'obéis scrupuleusement aux instructions de Holmes. J'eus un fiacre qu'on alla me chercher avec tant de précautions qu'il ne pouvait être celui qu'on aurait peut-être désiré que je prisse. Je me fis conduire devant les arcades que je traversais à toutes jambes. Une charrette anglaise attendait. Un cocher massif, enveloppé dans un manteau noir, fit démarrer son cheval dès que j'eus sauté à l'intérieur et fonça vers Victoria. Il me déposa et vira immédiatement pour quitter la gare sans me gratifier du moindre regard. Jusque-là, tout s'était admirablement bien passé. Mes bagages étaient à quai, et je n'eus aucune difficulté pour trouver le compartiment que Holmes m'avait indiqué. Il était le seul sur lequel figurait l'étiquette « réservé ». Une seule chose m'inquiétait. Holmes n'apparaissait pas. L'horloge de la gare m'indiqua qu'il ne restait plus que 7 minutes avant le départ du train. Mais je cherchais vainement parmi les groupes de voyageurs la silhouette élancée de mon ami. Je passai quelques minutes à aider un vénérable abbé italien qui, dans un anglais détestable, essayait de se faire comprendre d'un porteur et qui désirait que ses bagages fussent expédiés sur Paris. Puis, après une nouvelle ronde sur le quai, je revins dans mon compartiment. Hélas, le porteur, en dépit de l'étiquette réservée, y avait installé mon ecclésiastique italien. Comment lui expliquer que sa présence constituait une véritable intrusion ? Je parlais aussi mal l'italien que lui l'anglais. Je me bornai à hausser les épaules et je me remis à guetter mon ami. Un petit frisson me parcourut l'échine. Son absence ne signifiait-elle pas qu'un malheur lui était arrivé ? Déjà les portières s'étaient fermées et le sifflet du chef de train avait retenti quand « Mon cher Watson, fit une voix, vous n'avez même pas daigné me souhaiter le bonjour. » Je me retournai ahuri. Le vieil ecclésiastique me regardait. En un instant, les rides disparurent, le nez s'éloigna du menton, la lèvre inférieure cessa de tomber lourdement et la bouche de marmonner, les yeux ternes retrouvèrent tout l'éclat de leur feu, le corps prostré se redressa. Holmes m'apparut comme par enchantement. Et nous avons donc terminé pour ce soir. Cette aventure de Sherlock Holmes, donc le dernier problème que nous retrouverons pour la suite et la fin demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.